Nous avons un fils. Il est roi. Nous sommes régente. Et nous possédons Monsieur Mazarin comme Premier ministre. Tout va pour le mieux.
Bonjour, aujourd'hui troisième épisode de notre série consacrée à Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII et la mère de Louis XIV. Comment Anne d'Autriche est-elle devenue régente absolue de la France? Question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Joël Cornette. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment Anne d'Autriche, de plus en plus isolée à la cour de France, est même soupçonnée de trahison par son mari Louis XIII et par Richelieu. Une reine est en fait avant tout pour procréer et assurer la lignée royale. C'est dans une immense liesse qu'au début de l'année 1638, la cour apprend qu'Anne d'Autriche, âgée maintenant de 37 ans, mariée depuis 23 ans, est enceinte. Enfin, sans qu'une fausse couche, cette fois, ne vienne contrarier la grossesse. Malgré de nombreuses rumeurs propagées par de mauvaises langues, selon laquelle le père de l'enfant serait Richelieu ou encore Mazarin, il ne fait pas de doute que l'enfant qui va naître a bien été conçu avec Louis XIII. Mais pour la très pieuse Anne d'Autriche, cette grossesse tardive et inespérée est avant tout l'œuvre de la Providence et de l'intercession de la Vierge à laquelle elle n'a cessé d'adresser ses vœux. Dans toutes les églises et les chapelles de France, des prières publiques sont dites pour que cette grossesse arrive à son terme. Le 5 septembre 1638 à Saint-Germain, Anne d'Autriche donne naissance au dauphin Louis Dieudonné, futur Louis XIV. Dans la capitale, la nouvelle est accueillie par un concert de cloches, de feux d'artifice, on tire le canon, les Parisiens descendent dans les rues au cri de « Vive le roi !». Malgré la défiance que Louis XIII et Richelieu continuent d'exprimer à la reine, cette naissance, qui sera suivie 2 ans plus tard par celle d'un second fils, le duc d'Anjou, change totalement la donne pour Anne d'Autriche.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Désormais mère et forte d'une assurance nouvelle, Anne d'Autriche va consacrer toute son énergie et son action politique à devenir régente de France. Tout l'y prépare. Alors que Louis XIII tombe très malade, les événements se précipitent. Richelieu, le grand ennemi de la reine, meurt en 1642. Et le roi, l'année suivante.
La reine n'aura pas la souveraine autorité de la régence. Un conseil gouvernera l'État au nom de mon fils.
Mais avant de mourir, Louis XIII, qui n'avait aucune confiance en elle et la jugeait incapable de gouverner seule, a prévu dans son testament que la régente sera entourée d'un conseil de 7 personnes qui, de fait, doit l'empêcher de prendre seule des décisions. Mais la régente ne l'entend pas ainsi.
Le roi est mort. Vive le roi. Vive Louis XIV de nom par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Notre très honoré seigneur et bon maître, à qui Dieu donne très bonne, très longue et très heureuse vie. Vive le roi !
Vive le roi ! Le roi
est mort ! Le roi est mort !
4 jours seulement après la mort du roi, le jour même où sa dépouille est embaumée et son cercueil porté à la basilique de Saint-Denis, a lieu ce qu'on appelle le lit de justice. Dans une séance solennelle présidée par un petit roi qui n'a que 4 ans, Anne d'Autriche, toute de noir vêtue, a convoqué le Parlement de Paris dans le but de casser le testament de Louis XIII. C'est ainsi que ce jour-là, la régente, se révélant habile politique, va obtenir les pleins pouvoirs.
Être reine sans régner, épouse d'un homme misogyne, dangereux, qui ne nous aimait point, qui ne nous faisait pas d'enfants, qui était menée par des favoris et un premier ministre avide. Oh, tout ceci est terminé. Nous avons un fils. Il est roi. Nous sommes régents. Tout va pour le mieux.
Joël Cornette, Anne d'Autriche réussit ce jour-là un incroyable coup politique, c'est un coup de force même. La petite reine, qui parle à peine français, l'épouse méprisée, humiliée de Louis XIII, s'est transformée en vraie souveraine. Est-ce que c'est la naissance de son fils, futur roi de France, qui change tout ?
C'est vrai que c'est un bouleversement. Être mère d'un futur roi,
surtout.
Et puis elle a attendu 22 ans, vous l'avez souligné. Donc, Louis Dieudonné, ce nom n'est pas indifférent, donné par Dieu, comme si la Providence, d'une certaine façon, avait totalement changé et le destin de la monarchie et son propre destin. N'oublions pas qu'elle est super catholique, si vous me permettez l'expression, et donc tout est signe de Dieu. C'est un bouleversement. Et un bouleversement politique, c'est-à-dire que c'est véritablement une transformation, presque à vue, qu'on peut lire dans les archives, elle qui était effacée, elle qui était dans l'ombre de la cour, finalement, devient une femme forte, une femme qui décide que, ben oui, elle sait que le pouvoir, elle va le détenir dans la mesure où c'est un enfant. Et donc, en France, même si la loi salique exclut les femmes du pouvoir, elle sera régente. Et la régente a tous les pouvoirs, au nom de son fils. Et c'est là que c'est extraordinaire, ce coup de force, ce coup d'État, d'une certaine manière. 5 jours après la mort de Louis XIII, eh bien, elle force le Parlement à authentifier son statut de régente absolue. Alors ce terme, on ne l'a pas expliqué, je l'ai trouvé chez Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, un livre magnifique, et je trouve qu'il est totalement adapté. Régente absolue, dans la mesure où, elle prend les pas, finalement, de Richelieu et de Louis XIII, en assumant, de manière féminine, un pouvoir, absolue. Et un pouvoir aussi fort que celui qui était incarné par Richelieu et Louis XIII. Et ça, dans l'histoire de France, c'est assez extraordinaire.
Elle incarne l'absolutisme, d'une certaine manière.
Voilà, oui. Et elle devient une femme politique.
Oui, parce qu'elle aurait pu accepter d'être régente avec un conseil.
Ah, tout à fait.
C'est quand même étonnant qu'elle décide de... On est juste après la mort de Louis XIII. Elle
tout
décide de... Non, eh bien non, elle veut le pouvoir.
Bien sûr. Mais vous avez raison d'insister sur le fait qu'elle devait être régente relative par un conseil de 7 membres, c'est-à-dire avec un nombre impair, qui permettait de faire qu'elle n'aurait jamais la majorité en cas de vote. Et donc c'était une manière de l'exclure. Hein. On est aussi dans une sorte de misogynie politique.
Oui, c'est pas seulement pour son fils qu'elle le fait.
Les femmes n'ont pas le droit au pouvoir. Il y a même une théorie. Hein. Jean Bodin, qui est l'un des plus grands lettrés et penseurs politiques, parle de gynécocratie. C'est-à-dire le pouvoir des femmes est absolument pas possible. La femme est faite pour être à la maison, pour faire des enfants, point. Pas question d'incarner l'État.
Mais d'où lui vient, elle, cette énergie comme ça, nouvelle, parce qu'elle était humiliée, elle a été élevée aussi dans l'idée qu'elle allait servir. Enfin, c'est assez étonnant, cette métamorphose.
Je pense que c'est son fils. Le fait d'avoir un fils, d'être mère, si tard, encore une fois, pour elle, c'est un don de Dieu. Et donc, un signe de Dieu qui lui dit... Maintenant, tu dois assumer l'autorité que ton fils va détenir et tu dois agir. Je pense qu'elle a perçu ce message.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle lègue à son fils l'absolutisme qu'avait déjà commencé à avoir Louis XIII.
Voilà, léguer l'État absolu. Et ces deux premières initiatives sont justement là, comme signe. Première initiative, on va évidemment en reparler, nommer Mazarin principal ministre. Et deuxième initiative, et là ça a été un bouleversement pour les contemporains, tout le monde s'attendait à ce que cet Espagnol fasse la paix avec son frère, évidemment.
Mais oui.
Eh ben non. Elle décide de continuer la guerre. Or, continuer la guerre, c'est un changement total par rapport à ce qui était prévu par l'entourage d'Anne d'Autriche. La guerre, ça veut dire les impôts continuent, ça veut dire tour de vis politique aussi. Et elle assume donc cet état de guerre et jusqu'à la victoire. La raison d'État qui a été érigée comme moteur politique par Richelieu et Louis XIII, continue à être la règle. Et cette règle continuera jusqu'à sa mort et jusqu'à Louis XIV, évidemment.
Mais dans votre livre, Joël Cornette, vous dites aussi que ce lit de justice, donc ce moment où elle décide de casser le testament de Louis XIII, où elle décide de prendre le pouvoir seule, elle ne le fait pas seule, justement. Elle est obligée de négocier avec le Parlement.
Absolument.
Et vous dites que le prix politique de ce lit de justice est élevé, qu'il annonce un avenir lourd de menaces. Pourquoi ?
Parce que Louis XIII et Richelieu avaient enlevé au Parlement leur droit de remontrance. Et qu'est-ce que c'est le droit de remontrance ? C'est le droit pour le Parlement de s'opposer éventuellement un édit qu'il considère comme non conforme aux lois fondamentales du royaume. Et donc le lit de justice de mai 1643, c'est une sorte d'échange, si vous voulez.
C'est un deal, quoi.
Le Parlement donne à la reine son pouvoir absolu, mais la reine donne au Parlement son droit de remontrance. Donc vous voyez, d'une certaine façon, elle érige le Parlement en contrepoids politique par rapport à sa propre autorité. D'une certaine manière, la graine de la Fronde a été plantée, semée, lors de Solide Justice. Et ça va expliquer les grands désordres, évidemment, qui vont s'abattre sur le royaume pendant 4 ans, entre 1648 et 1652, marqués notamment par l'opposition frontale du Parlement à la monarchie. Le germe de la Fronde a été planté
par Anne d'Autriche, en fait.
Au moment de la mort de Louis XIII et lors de Solide Justice, 5 ans après, 5 jours, pardon, après la mort du roi.
Elle ne portera le deuil que très peu de temps. Oui. À la fin de l'année, vous le racontez, Joël Cornette, elle renonce au noir.
Oui, voilà. Normalement, vous savez, une veuve doit rester 40 jours isolée dans une chambre toute noire, à prier. Anne d'Autriche ne l'a pas fait. Hein,
elle a décidé de vivre.
5 jours après la mort, celui de justice, et elle devient très très vite régente, préside le conseil et fait fonctionner l'État.
Merci Joël Cornette. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la régente absolue va gouverner avec Mazarin et faire face à la tourmente de la Fronde.